Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Bounia, en Ituri. Bienvenue, voici les titres de ce journal. 3 civils sont morts et 3 miliciens blessés. Bilan d'un accrochage entre FARDC et miliciens de la CODECO hier mercredi dans le secteur de Walendu-Pitsi, en territoire de Djougou. Nous sommes en Ituri. L'incident a représailles à l'interdiction à ces miliciens de circuler avec leurs armes et autres effets militaires a perturbé le trafic sur la route nationale numéro 27. La société minière Tenke-Funguru Mining déclare avoir contribué au trésor public de la RDC au cours du dernier trimestre à hauteur de 361,57 millions de dollars américains. Ce géant minier l'a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public lundi dernier à Lubumbashi. L'invitée de ce journal est Gertrude Ndaya, formatrice électorale. Elle parle justement de la formation sur la réussite d'une campagne et le fonctionnement des institutions locales. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal. En Ituri, 3 civils sont morts hier mercredi dans un accrochage entre FARDC et miliciens de la CODECO dans le village de Zangé, proche de Libi, au chef-lieu du secteur de Walendu-Pitsi dans les territoires de Djougou. Selon des sources sécuritaires, ce sont des assaillants qui ont attaqué en premier la position de l'armée en représailles à l'interdiction à ces miliciens de circuler avec leurs armes et autres effets militaires. 3 parmi ces hommes armés ont été grièvement blessés au cours de ces échanges de tirs. L'incident a perturbé le trafic sur la route nationale numéro 27. Des détails avec Martial Kizabiamungu.
Ce jeudi matin, un mouvement d'une centaine de miliciens de la CODECO a été observé dans les bastions de Lobou et Badli au nord de Libye dans le secteur de Walendu-Pitsi. Selon plusieurs sources, ils voulaient venger leurs camarades grièvement blessés au cours d'accrochages avec le FARDC à Zangé. Des sources sécuritaires rapportent que ces assaillants dans leur fuite ont incendié 6 maisons à paille et perturbé la circulation sur l'axe Libye-Dera et Nyoka sur la route nationale numéro 27. Un commandant de FARDC, joint sur place à Libye, dit avoir interdit à tous ses miliciens de circuler avec les armes et effets militaires dans les grandes agglomérations. Cela précise-t-il conformément à l'exécution de la feuille de route adoptée par ces groupes armés à Arou. La société civile locale demande à l'armée d'intervenir en urgence pour épargner la population des possibles conséquences collatérales en représailles à cette heure. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Nord Kivu, des combats ont repris tôt ce matin sous les lignes de front dans la région de Kilolire, en territoire de Masisi. D'autres affrontements ont également eu lieu ce matin, momentanément dans le groupement Bukombo, précisément à Rubona et Sissa, en chefferie de Buito. Sifa Maguru pour les détails.
Les sources locales rapportent que les combats violents sont en cours ce jeudi sur l'axe Kirolirwe. L'armée serait en train de bombarder par voie aérienne les positions conquises hier par les rebelles du M23 dans la région de Kirolirwe et ses environs. C'est notamment Kaoussa et Muyange sur l'axe Masisi-Kichanga, affirment nos sources. Cependant, sur l'axe Kibumba et Bumba, en territoire de Nyiragongo, c'est une accalmie relative qui est observée ce jeudi matin après des combats à l'arme lourde et au bombardement enregistrés hier dans la zone. Aucun changement observé jusqu'ici dans les combats de Kibumba depuis une semaine. Chaque force conserve ses positions et la situation reste tendue, affirme la société civile de la région. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Au sud Kivu, pendant ce temps, la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge de la coordination de prévention et de la réponse aux crises alimentaires était en visite hier mercredi dans 2 groupements de la chefferie d'Ngoché en territoire de Walungu. C'est dans ces groupements, Kaniola et Izegué, que les consortiums PAM, FAO, UNICEF réalise des projets communautaires dans les domaines de la santé alimentaire, l'agriculture et la réhabilitation de la route des déserts agricoles. L'hôte de marque, Rena Gelani, a admiré l'impact réel que ces projets multisectoriels offrent aux communautés locales de cette partie du territoire affectée par des atrocités causées par des groupes armés étrangers, les FDLR notamment. Reportage Jean Kassami.
L'aire de santé de Mwirama, située dans la zone de santé de Kaniola, a constitué la première étape de la visite de Madame Rehena Gelani. Les enfants, les femmes enceintes et allaitantes y reçoivent des produits riches en nutriments alimentaires, comme l'explique ici l'infirmier titulaire du centre Ombeni Jean Isaac.
Elle est venue s'imprégner de la situation de ce que nous faisons sur terrain, sur la prise en charge de la malnutrition sévère, et sur la prise en charge de la malnutrition modérée, mais aussi sur le WASH.
Ensuite, la sous-secrétaire générale des Nations Unies s'est rendue à Izégué où s'exécute le projet de résilience. Une route de desserte agricole menant vers les champs communautaires de 4 hectares de maïs dans le même village de Tshishozi, on y trouve un bâtiment somptueux pour l'alphabétisation des adultes. Ruhune Mungu Ntakuderwa, acteur de la société civile du milieu.
Vraiment, nous sommes très enchantés d'avoir ce consortium parmi l'UNICEF et FAO. Dès qu'ils ont arrivé dans les milieux, il y a tant de changements qui se sont opérés. Nous avons bénéficié beaucoup de choses.
Les organisations paysannes trouvent leur compte dans l'employabilité. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans la province de la Tshopo, la formation paramilitaire des volontaires issus des milieux de l'enseignement supérieur et universitaire sera lancée officiellement ce jeudi à Bengamissa, localité située à 50 km au nord de Kisangani. Le ministre des tutelles, Muindo Nzangi, et le vice-ministre de la Défense nationale sont arrivés hier à Kisangani pour cette fin. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Cette formation paramilitaire des étudiants est prévue pour une durée d'un mois, déclare Muindo Nzangi, ministre de l'ESU. Elle connaîtra la participation des volontaires issus non seulement des milieux étudiantins de Kisangani, mais aussi de ceux venus de Goma. Un autre groupe de cette entité est attendu d'ici là, précise le ministre des tutelles. Cette activité intervient alors que certains étudiants continuent à suivre les cours prévus dans leur cursus académique. D'autres attendent encore de passer la session, la première ou la seconde selon le cas. À ce sujet, Muindo Nzangi rassure qu'il va tenir compte de la situation de tout le monde. On tiendra compte de votre situation de manière individuelle pour tous les volontaires qui acceptent d'aller faire la formation, a souligné le ministre Muindo. Il ajoute que ces étudiants sont des réservistes de l'armée nationale. Ils doivent rester mobilisés afin de se mettre à la disposition du pays au moment où on aura besoin d'eux, signalant que ces volontaires vont apprendre notamment l'autodéfense, le maniement d'armes ainsi que la discipline. Jacques Moukonkolé, Kisangani. Radio Okapi.
Les ravisseurs d'un Congolais et un Chinois lundi dernier sur l'axe Kalemie-Kabimba dans les territoires de Kalemie en province du Tanganyika exigent une rançon de 400 000 dollars avant la libération de ces deux otages. Annonce faite ce jeudi à Radio Okapi par l'administrateur du territoire de Kalemie. John Mutombo condamne cet acte et appelle le gouvernement provincial du Tanganyika à renforcer la sécurité sur cet axe routier. Il a été joint par Paul Munanga.
J'ai essayé un peu de parler avec les chauffeurs qui est aussi parmi ceux-là qu'on a levé. J'ai discuté avec lui, il m'a dit oui, effectivement, il est en bonne santé, mais il se retrouve devant plusieurs coupeurs de route, même le Chinois aussi est là. Et quand je lui ai demandé de me passer l'un des kidnappers, il m'a passé, j'ai parlé avec le kidnapper, je leur avais demandé pourquoi vous les avez enlevés et que, pourquoi, quelles raisons, quelles infractions qu'ils ont commises, tout ça, non? Non, nous cherchons l'argent, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut chercher de l'argent, puisque ce sont des pères de famille. Je demande au gouvernement provincial de nous envoyer les militaires, surtout forces terrestres, pour sécuriser quand même ces tronçons, puisque vous savez, c'est une route qui est fréquentable à tout moment par les cultivateurs, par même nos partenaires chinois.
L'administrateur du territoire de Kalemie ajoute que c'est pour la quatrième fois que des Congolais et Chinois sont kidnappés sur l'axe Kalemie-Kabimba par des coupeurs de route. Leur libération est souvent conditionnée par le paiement d'une rançon. Autre sujet de l'actualité, la société minière Tenke Fungurume Mining déclare avoir contribué au trésor public de la RDC au cours du dernier trimestre à hauteur de 361,57 millions de dollars américains. C'est au titre d'impôts et autres paiements connexes ainsi que certains services administratifs publics de la RDC. Ce géant minier l'a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public lundi dernier à Lubumbashi. Considérant ces données, elle s'est dit fière de contribuer à la croissance économique du pays. Jean Gandou pour plus de détails.
La société Tenkefungurume Mining annonce qu'au troisième trimestre 2023, elle a produit environ 69 755 tonnes de cathode de cuivre et 5 686 tonnes de cobalt métal sous forme d'hydroxyde de cobalt. Pour ce qui est des responsabilités sociétales, depuis 2006, elle renseigne qu'elle a financé des projets communautaires pour un total de 279,39 millions de dollars américains. Elle alloue aussi 0,3% du produit net de la vente des métaux au fonds social communautaire. Depuis le lancement de la production, les contributions engagées dans le fonds ont été estimées à 65,39 millions de dollars américains, dont 6,33 millions de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2023. Au regard des conditions fiscales actuelles qu'elle applique, plus de la moitié des retombées économiques générées par le projet restent en RDC sous forme de taxes, redevances et droits. Et si l'on inclut les impacts économiques résultant de la fourniture des services au niveau local, par exemple achat de l'énergie auprès de la SNEL, c'est plus de deux tiers des retombées du projet qui restent en RDC. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis Alpha Jiri Energy, une société de droit canadien, confirme la signature du contrat de partage de production pour l'extraction du gaz méthane sur le lac Kivu. Au cours d'une conférence de presse hier mercredi à Kinshasa, Christian Amouli, représentant de cette société en RDC, a affirmé que la prochaine étape est la ratification du contrat par le président de la République. Toujours selon lui, les études d'impact socio-environnemental de ce contrat seront effectuées par deux universités congolaises. Christian Amouli l'a dit à Paul Matendo.
La prochaine étape, au fait, ce que nous attendons, c'est la ratification du contrat par son Excellence le président de la République. Et puis, de ce moment-là, le contrat entre en vigueur. Et puis, voilà autre chose qu'on ne vous dit pas. Nous sommes en partenariat avec deux plus grandes universités du Sud Kivu, UOB et UEA. Nous sommes en partenariat avec eux. Nous avons des papiers signés. Encore, comme je vous dis, il y a chaque partenariat que vous signez dans un projet pareil, ça a des clauses de non-confidentialité. Et en ce qui concerne des activités aussi au Congo, la prochaine activité, au fait, c'est que les deux universités là commencent l'étude d'impact environnemental et social.
À une semaine de la clôture de la session ordinaire de septembre 2023, l'Assemblée nationale et le Sénat accélèrent le rythme des plénières. Au cours des plénières de mardi et mercredi, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs matières, parmi lesquelles le rapport de la commission ECOFIN sur le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des bureaux de formation sur le crédit, ainsi que celui de la commission environnement sur la loi relative à l'élevage. Le président de la commission environnement, ressources naturelles, tourisme et développement durable, Constantin Benguele, a déclaré que la présente loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage vise aussi à assurer la souveraineté alimentaire à des millions de Congolais et du même coup promouvoir le développement de l'élevage. Pour le député national Jado Kasereka, il n'est pas normal que la RDC, l'un des deux plus grands pays d'Afrique, avec plus de 35% de sa superficie constituée de terres pâturage, puisse continuer à importer de la nourriture. Jado Kasereka est au micro de Michel Kifindangoy.
Cette législature a réellement travaillé sur deux lois qui se rapportent réellement aux besoins réels de la population. Nous avons, n'est-ce pas, voté une loi ici sur la pêche, sur l'agriculture. Aujourd'hui, c'est sur l'élevage. Sont là les besoins réels de notre population. Parce qu'il n'était pas normal que le Congo puisse continuer à importer de la viande. Et pourtant, il était facile que nous puissions nous-mêmes améliorer l'élevage au sein de notre pays. Parce que nous avons de l'espace. Nous avons un bel environnement. Nous avons une très bonne géographie. Ce sont des lois qui viennent régler des problèmes réels de notre pays. Il y a plusieurs lois que nous votons ici, mais qu'on va garder dans des tiroirs. Que l'exécutif ait l'habitude, eh bien, de le mettre en application pour que nous puissions régler une fois pour toutes tous ces problèmes que nous connaissons dans notre pays.
Autre chose à présent, la synergie des organisations membres de la société civile dénonce la campagne électorale précoce observée à travers la RDC en violation du calendrier des élections. Dans une déclaration signée hier mercredi par ces structures, ce constat a été fait après la publication des listes définitives des candidats présidents de la République, des députés nationaux et provinciaux. Au ministère de l'Intérieur, à la CENI et au CESAC de veiller à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la campagne électorale. François Kadima nous en parle.
Cette déclaration est signée par l'Association africaine de défense des droits de l'homme, la nouvelle société civile congolaise, Agir pour les élections transparentes et apaisées et le Comité national femmes et développement. Ces organisations notent qu'ils s'observent dans les rues de Kinshasa et dans certaines provinces des banderoles, des affiches et des panneaux géants avec des messages de candidats dans la course aux élections. Alors que la campagne électorale n'a pas encore commencé, certains candidats envahissent les espaces publics, les médias traditionnels et en ligne. S'indignent ces organisations. L'ASADO, la NSC, l'AETA et les CONAFED constatent également que certains leaders politiques, même religieux, propagent des discours séparatistes aux connotations régionalistes et tribales, incitant la haine, alors que cela menace la sécurité et la cohésion nationale. Ces organisations rappellent que la campagne électorale est autorisée 30 jours avant la date des élections et se termine 24 heures avant cette date. Des amendes allant de 200 000 à 2 millions de francs congolais sont prévues pour toute personne qui s'engage dans la campagne électorale en dehors de la loi électorale. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Madagascar, le rassemblement du collectif des 10 a été marqué hier mercredi par un rare niveau de violence dans la capitale Antananarivo. Symbole de cette journée, les images devenues virales des manifestants avec une partie de la joue arrachée par un tir de flashball des forces de l'ordre. Au moins 5 autres personnes ont été blessées et un député de l'opposition arrêté. Burkina Faso, la justice demande à l'Agence nationale du renseignement de libérer l'homme d'affaires Anselme Sansa Kambou, enlevé depuis la deuxième quinzaine du mois de septembre par des hommes cagoulés. Sa famille n'a depuis plus eu de ses nouvelles. Malgré la procédure judiciaire obtenue de ses proches, assortie d'une décision du tribunal administratif de Ouagadougou demandant la mise en liberté de l'homme d'affaires, plusieurs jours après, la famille attend toujours son retour.
L'invité.
L'invité de ce journal est Gertrude Ndaya, formatrice électorale. Elle parle justement de la formation sur la réussite d'une campagne et le fonctionnement des institutions locales. En effet, 20 femmes candidates aux élections municipales des provinces du Kasaï oriental, de l'Omami, du Haut-Katanga et de l'Olaba ont clôturé une formation de ce genre le week-end dernier à Lubumbashi. La formatrice Gertrude Ndaya s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, Madame Gertrude Ndaya, vous revenez de Lubumbashi où vous avez été retenue comme formatrice pour former les femmes candidates aux élections du 20 décembre prochain. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette formation ?
Bonjour Maman Esther. Effectivement, nous avons été recrutés par Democracy Reporting International pour former les femmes candidates aux élections municipales locales. Comme vous le savez, c'est pour la toute première fois depuis 2006 qu'on va organiser les élections au niveau local. Alors, il était important d'outiller les femmes candidates pour savoir quel est le rôle qu'elles doivent jouer en tant que conseillères de commune ou conseillères urbaines. Donc, il fallait vraiment les outiller. Nous avons commencé cette formation d'abord en Bujimaï pendant 5 jours. Nous avons formé des femmes candidates qui venaient du Kasaï oriental et de la province de l'Omami.
Pourquoi vous les avez encore regroupées à Lubumbashi?
Ok, elles ont reçu d'abord une première formation théorique ici à Mbujimaï. Ensuite, nous sommes allés à Lubumbashi. Nous avons fait la même formation pour les femmes qui venaient du Lualaba et du Haut-Katanga. En troisième position, nous avons regroupé et les femmes qui avaient été formées à Mbujimaï, 10, et 10 autres qui avaient été formées à Lubumbashi. Nous les avons mis ensemble. Et là, elles ont dû bénéficier de l'expérience d'autres femmes congolaises pour la plupart qui venaient d'ailleurs. Mais il y a eu aussi les échanges d'expériences avec des femmes européennes et des femmes de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique de l'Ouest, qui sont également dans les institutions locales. Et à cette occasion, nous avons pu donner à chaque femme candidate congolaise une mentor.
Et quel sera donc le rôle des mentors?
Ok. Alors, les mentors doivent accompagner les femmes candidates. D'abord, elles ont commencé par partager l'expérience. Ensuite, elles ont aidé les femmes candidates à élaborer leur plan stratégique de campagne. Elles ont fait un programme de suivi, d'accompagnement. Donc, chaque femme mentorée avec son mentor. Et tout le long du processus, les mentors auront la noble mission d'accompagner les femmes candidates dans le processus jusqu'à la fin des élections. Mais ce que nous avons souhaité, c'est que l'accompagnement ne s'arrête pas là, parce que quand elles seront élues, il faudra aussi continuer à renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent donner un meilleur rendement. Elles ont été aussi capacitées dans la levée de fonds, parce que bon, on ne peut pas faire la politique sans moyens. Et ce que nous avons beaucoup retenu, c'est que compte tenu de la mission qui est la leur, elles ne devraient pas s'aventurer dans des promesses fallacieuses et prendre des engagements qui ne sont pas dans leur mission. Par exemple, donner de l'argent aux électeurs, promettre la construction de ceci, la construction de ça.
Et les mentors, vous dites qu'elles sont venues de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Europe. Elles ne sont pas avec elles sur terrain. Comment se fera donc le suivi?
Oui, on utilise les nouvelles techniques de communication. Il faut faire remarquer que toutes les mentors n'ont pas pu venir à Lubumbashi. Elles ont eu les contacts avec leurs mentorés par vidéoconférence. Donc, nous avons organisé des vidéoconférences. Ainsi, elles ont présenté ce qu'elles devaient présenter. Et c'est par ce système-là ou cette technologie-là que l'accompagnement va se poursuivre. Évidemment, il est prévu après 3 mois de faire une évaluation. Alors, l'évaluation-là, nous estimons que ça doit vraiment être fait en présentiel. Parce que celles qui n'ont pas pu venir, elles n'ont pas eu le visa et on a été obligé de faire les échanges en vidéoconférence.
Madame Gertrude, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Maman Esther.
Notre invitée, Gertrude Ndaya, formatrice électorale, s'entretenait en Boujimaï avec Esther Ndalafina. Ce journal est à présent terminé. Il a été supervisé par Martin Seboudjangoué et coordonné par Blaise Sindani Kambala, Pierre Diassinois, la mise en onde. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.